J'ai pratiqué une sélection vraiment drastique dans un, comme l'a rappelé Jean, dans un monde de l'édition qui est vraiment très fourni ces temps derniers, depuis le début des événements, en publication. Il y a eu des centaines d'ouvrages qui sont parus par des journalistes, par des chercheurs, des penseurs, des universitaires, des romanciers, enfin des littéraires. Ça y est, c'est reparti. Bon, alors déjà, remercier la Maison du Livre et en particulier qui m'a aidé à la sélection, Jonathan, qui travaille là-bas et qui s'occupe du rayon sciences humaines. Voilà, merci à lui. Donc, je voulais revenir sur l'expression des printemps arabes. Tout de suite, on pense au printemps de Prague. Et en fait, cette expression-là reprend le titre d'un livre qui est paru à la fin des années, en 1959, un livre qui s'appelait Un printemps arabe de Jacques Benoît Méchain. À l'époque, ce livre avait eu un grand succès. Et depuis, bon, bah, il est tombé aux oubliettes, sauf pour revenir avec cette expression réemployée depuis les événements qu'on connaît. Alors, ce livre, il n'est plus édité, mais il est disponible en téléchargement sur Internet. Pour les références, vous venez me voir ceux qui sont intéressés. Alors, je disais qu'il y a toute une multitude d'ouvrages qui sont parus sur la question. Je commence par présenter deux ouvrages très savants, des ouvrages collectifs sur lesquels je passerai assez vite. Ce sont des compilations de pluridisciplinaires qui comportent des articles rédigés par l'un sur l'Égypte, 40 chercheurs et universitaires qui développent les thèmes de tous les aspects de la vie égyptienne sur le plan de l'économie, du social, du politique, etc. J'ai les sociétés civiles dans le monde musulman qui regroupent pareil les auteurs de 26 auteurs, pour la plupart des chercheurs ou des professeurs, des universitaires. Très savants et vraiment pour les gens qui sont vraiment intéressés. Alors je disais qu'il y avait des journalistes qui avaient écrit sur ce sujet. Je présente aussi deux entretiens. L'un qui s'appelle Le 89 arabe entre Benjamin Stora, dialogue avec Edwy Plenel. Benjamin Stora étant connu comme historien spécialiste reconnu du Maghreb essentiellement. Edwy Plenel, que tout le monde connaît, c'est l'un des fondateurs directeurs de Mediapart actuellement. Et un autre qui s'appelle Dictateur en sursis, la revanche des peuples arabes. C'est un dialogue, là aussi, une réédition qui est revue et augmentée depuis les événements. C'est un livre qui est paru en 2009. Un dialogue entre Moncef Marzouki et Vincent Guesser, qui est chercheur au CNRS et spécialiste de la Tunisie, notamment. Ensuite, je présenterai Jean-Pierre Filliu, qui nous sert 10 leçons sur le soulèvement démocratique. Alors Jean-Pierre Filliu, c'est un prof de Sciences Po qui a exercé des fonctions diplomatiques à Tunis et qui est très considéré pour ses connaissances du monde arabe, arabo-musulman. Il nous livre là 10 leçons en 10 chapitres, suivies d'une chronologie assez précise des événements, d'une bibliographie et des ressources Internet notamment. Alors lui, pour résumer un argument, il estime que les islamismes sont désormais au pied du mur, mais que le modèle turc l'emportera. Il écrit notamment, et ça c'est à mettre à la lumière des dernières élections tunisiennes, hein, des élections tunisiennes, l'intégration harmonieuse d'Ennahdha apparaît comme une garantie face aux provocations des groupuscules salafistes dont les démonstrations de force contre l'alcool et la prostitution ont été très mal perçues dans les villes tunisiennes. Ça sera certainement une des questions du débat qui suivra. Voilà pour celui-là. Ensuite, je présenterai Fethi Ben Salama, qui est une psychanalyste qui a fait paraître, donc qui est engagée de longue date dans la défense de la démocratie, des libertés, qui est à l'origine du manifeste des libertés, qui était paru en 2005, qui avait eu pas mal de signatures d'ailleurs à l'époque, c'était paru dans le journal Libération. Alors ce livre est paru en 2005, c'est le manifeste, c'est la déclaration d'insoumission. C'est un commentaire très analysé de ce qui a rendu nécessaire les événements qu'on connaît, les soulèvements qu'on connaît. Elle a écrit aussi « Soudain, la révolution ». Et là, c'est une étude qui utilise les ressources de la psychanalyse et de la philosophie pour éclairer le processus révolutionnaire. Donc c'est intéressant aussi. Ça se lit bien. Ensuite, je présenterai quelqu'un que tout le monde connaît, Tahar Benjelloun, prix Goncourt 87, on s'en rappelle. Hein. Alors lui, il est né au Maroc, hein, on le sait aussi. C'est tout ça, ça s'appelle L'Étincelle. Il a fait paraître deux bouquins. Il a fait paraître L'Étincelle et un autre, Par le feu, que je n'ai pas pu avoir, mais qui est disponible en librairie. Alors, L'Étincelle, c'est une méditation sur, en fait, sur l'avenir des printemps arabes. Et lui, alors, il énonce la défaite de l'islamisme par son absence dans les manifestations, à mettre à l'épreuve de l'histoire et de l'avenir. Et il balaye la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Yémen, le Maroc et la Libye. Dans son autre livre, qui paraît à peu près dans les mêmes temps, qui s'appelle donc Par le feu, c'est une œuvre sensible qui rend hommage aux révolutions arabes par une évocation des jours qui ont précédé l'immolation par le feu de Mohamed Benzizi en décembre 2010, qui a été un peu le déclencheur, le signal des événements. Alors, Tahar Benjelloun, je peux lire... Ce que les révoltes donneront dans l'avenir est encore incertain. Il y aura des erreurs, des tâtonnements, peut-être des injustices, mais ce qui est sûr, c'est que plus jamais un dictateur ne pourra fouler aux pieds la dignité de l'homme arabe. Ces révoltes nous apprennent une chose simple et qui a été tellement bien dite par les poètes. Face à l'humiliation, tôt ou tard, l'homme refuse de vivre à genoux, réclame au péril de sa vie la liberté et la dignité. Cette vérité est universelle. Ça, c'est la conclusion de son livre. Dans ce livre, il évoque aussi le pouvoir des moyens de communication actuels, et notamment Internet, qui rendent très rapide la communication, qui provoque, des rassemblements, du lien, qui ont une réactivité immédiate par la diffusion presque en temps réel des informations. Et là, je présente donc Tunisian Girl, d'une jeune blogueuse, Lina Benmeni, blogueuse tunisienne donc, qui a été très engagée dans tout ce qui s'est transmis au niveau ça a été évoqué dans le film précédent d'ailleurs, que tout ce qui s'est transmis par Internet dans la mobilisation des jeunes notamment, par les réseaux qu'on appelle sociaux, enfin bon, ça c'est une expression encore qui peut être discutable, les réseaux de communication donc, qui ont mobilisé pas mal et qui permettent les flash mobs, les rassemblements immédiats et la mobilisation quoi, à ce niveau-là. Et dans tous les pays arabo-musulmans d'ailleurs, on a eu ce type de... Et non, parce qu'en fait je me débrouille, merci... On a eu ce phénomène, et d'ailleurs, bon, ben, en Égypte aussi, d'ailleurs, il y avait une jeune blogueuse qui s'appelle Ena Abdel Fattah, qui a 29 ans, et qui était à l'origine du mouvement aussi, de certaines mobilisations. Ensuite, j'ai deux livres qui reprennent le propos du film qu'on a vu, qui sont écrits par des journalistes, et qui retracent, l'un s'appelle « Le pharaon renversé », 18 jours qui ont changé l'Égypte. L'autre s'appelle L'Égypte de Tahrir, anatomie d'une révolution. Et ça retrace véritablement ces deux journalistes pour celui-ci, Robert Solé pour celui-là, qui est aussi un journaliste correspondant du Monde, né au Caire, qui retrace les 18 jours fondamentaux, c'est-à-dire du 25 janvier au 11 février, qui ont mené au départ de Moubarak, comme on l'a vu tout à l'heure. De quoi je pourrais vous parler encore? J'ai aussi une historienne en sciences sociales, Jocelyne Daclia, qui a édité une conférence qu'elle avait donnée, historienne en sciences sociales, sur la Tunisie. J'ai aussi Tripoli Wood, une journaliste qui était une des seules journalistes qui a été accréditée pour séjourner en Libye. À l'hôtel, je ne sais plus le nom de l'hôtel là, dans lequel étaient confinés les journalistes et qui étaient autorisés à rencontrer Kadhafi et ses sbires. Voilà. J'ai Anatomie d'un tyran aussi, le personnage de Kadhafi. Je vais assez vite hein, parce qu'il ne faut pas y passer. Si vous voulez des renseignements plus avant, pendant l'entracte, les livres sont en vente d'une part, et puis je peux donner plusieurs des renseignements plus supplémentaires. J'ai un livre de Abdelwahad Medeb, Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire. Alors lui, il anime l'émission Culture d'Islam sur France Culture. Et ce que je peux lire, lui, par contre, la conclusion de son livre. J'ai peur que s'ouvre sous nos pieds le gouffre de l'aventure. Je voudrais que chacun réinvente sa prière pour lui donner l'intensité qu'exige le péril à conjurer. Que cette révolution demeure fidèle à l'esprit qui a éclairé son commencement. Qu'elle s'assigne la modeste mais ô combien glorieuse tâche d'apporter la liberté à un peuple qui n'en a jamais humé la fragrance. Et qu'elle lui épargne la promesse des lendemains qui chantent. L'histoire nous montre que telle promesse ouvre les trappes de l'enfer. J'en terminerai ici. Et si vous avez des renseignements, donc, je vais introduire donc le Rabat pour le débat, pour la présentation de la discussion. Et puis ensuite, au moment de la pause, on peut rediscuter des livres pour ceux qui sont intéressés. Merci.